On a tous les deux commencé par la lecture des aventures de Percy Jackson et ensuite on a pris des chemins bien différents. Je suis Laetitia et bienvenue sur mon podcast Chill Talking and Reading où l'on voyage d'époque en époque comme de page en page à la découverte d'épopées fantastiques. Romance, fiction, fantasy, poésie, polar ou grand classique, j'espère que tu es prêt pour l'aventure. Installe-toi bien parce que ça commence maintenant. Il fut un temps, dans les âges oubliés du monde, où les histoires portaient plus de puissance qu'une épée forgée par les flammes des dragons. Des royaumes entiers naissaient entre les pages d'un grimoire, et des héros au cœur ardent marchaient sur des terres que nulle carte ne pouvait tracer. C'est dans des contrées où la magie flirte avec le destin. Ça serait pas la naissance de la fantasy épique par hasard ? Son film préféré, c'est Gladiateur. Il a dévoré Les Misérables en une semaine et il m'aime comme personne. Je suis avec mon amoureux et ensemble, on va vous parler de la fantasy épique. Je pense que vous l'avez un peu deviné avec mon introduction. Je tiens à dire que sa présence me touche énormément parce que Mathurin, c'est une personne qui est très réservée. Donc ce type d'exercice, ça le sort complètement de sa zone de confort. Qu'est-ce que la fantasy épique ? Qu'est-ce qui la distingue des autres sous-genres de la fantasy comme urbaine, dark, mythique ?
Ok. La fantasy épique, c'est une aventure, je pense, où la magie est réelle, où il peut y avoir des héros qui affrontent le mal, qui affrontent des forces différentes. Et on a des enjeux mais qui vont concerner un peu le monde entier, souvent un héros qui vient sauver la planète entière. Voire parfois, dans certains romans, l'univers entier. Donc ça met en scène des quêtes, des prophéties, tout ce qui peut être dans l'univers fantastique, des rois, des dragons, bref, tout un univers digne des plus grandes légendes.
Très intéressant, en tout cas ça donne très très envie. Quels sont les éléments justement essentiels à un récit de fantasy épique ? Un monde secondaire, une quête, héros, magie ou force du mal ?
Pour moi, je pense que c'est important qu'il y ait de la magie. Dans la fantasy, c'est plutôt, on va dire, la base. Un héros avec un caractère assez affirmé, je pense que c'est important. Et malgré tout, il faut que ça reste cohérent. Il faut que l'histoire, il faut que la magie... faut pas que ça parte dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence au récit. Sinon, on peut vite s'y perdre et on s'ennuie assez rapidement. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est quand on visite des époques qui sont pas forcément très récentes. Bah, idéalement, la période la plus utilisée, je pense, c'est tout ce qui va être au Moyen-Âge, les chevaliers, etc. Mais j'aime bien quand ça va déborder un petit peu plus sur l'Antiquité, que ça peut être au niveau des antiquités grecques, romaines, même les Égyptiens. Ça peut être des trucs assez sympas à lire.
Mais c'est pas le but même de la fantasy que l'époque, elle n'existe pas, justement ?
Alors si, mais quand je dis époque, ça doit pas forcément s'ancrer dans le réel, mais c'est que l'auteur fera toujours référence à des...
légendes.
Soit à des légendes, soit à des objets du quotidien qui sont caractéristiques d'une certaine époque. Par exemple, ça me plairait pas forcément si on était avec des voitures, avec des téléphones portables, avec tout ce qui caractérise notre époque aujourd'hui, des armes à feu, etc. Et donc, des époques un peu plus anciennes qui reprennent des codes du Moyen-Âge ou de l'Antiquité.
Oui, des batailles d'épée, quoi.
Ouais, en gros.
Parlons plus sérieusement, comment as-tu connu ce genre ?
J'étais très jeune, je pense, quand j'ai commencé à lire de ce genre. J'ai commencé, j'étais passionné par la mythologie grecque et romaine. Donc j'ai lu beaucoup de récits, de légendes à cette époque-là. Et comme je lisais beaucoup, mon père m'a acheté de plus en plus de livres et... à un moment donné, je pense, je suis tombé sur des livres de fantasy, puis j'ai tout de suite accroché au concept. Donc j'ai continué à acheter essentiellement ce genre de livres. Et depuis, vu que j'étais grand fan, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.
Et il est resté grand fan, quoi.
Tout à fait.
Tu définirais comment comme type de lecteur ?
Moi, je me définis comme un lecteur épisodique ou périodique. C'est-à-dire que pendant une période, je vais lire beaucoup de livres, mais beaucoup, beaucoup, et puis assez rapidement. Puis ensuite, pendant une longue période, je ne vais plus lire rien du tout, puisque je ferai autre chose. Ça peut être plusieurs semaines, même plusieurs mois. Je ne vais plus lire du tout, et ensuite je vais reprendre. Donc c'est vraiment à des périodes que je vais lire.
C'est quand tu as le temps ?
Non, ce n'est pas une question de temps, puisque on a toujours le temps. Mais non, c'est vraiment des périodes quand j'ai envie.
Je lis, et puis je lis plusieurs séries, plusieurs sagas. Et ensuite, j'arrête pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ensuite, je reprends.
Ok. Quel livre recommanderais-tu pour commencer la fantaisie épique?
Alors, j'en aurais plusieurs en fonction de l'âge ou de différentes époques de la vie. Moi, j'ai commencé, je pense, avec La guerre des clans en étant assez jeune. Une histoire, c'est assez marrant, c'est sur des chats qui ont plusieurs vies, 9 vies, et qui bossent avec des clans qui se battent entre eux, avec pas mal d'histoires derrière tout ça. La guerre des clans, ça a été écrit par Erin Hunter. Pour une autre période, un petit peu plus âgée, à l'adolescence, je pense, j'ai dû lire Eragon, la saga des 4 tomes, très intéressant, à cette époque en tout cas. Je pense que tout le monde connaît à peu près Eragon, hein, celui qui élève les dragons. Donc le dragonnier, très intéressant. C'était écrit par Christopher Paolini. Comme autre recommandation, j'aimerais rajouter la série Renégat que j'ai lue il y a un certain temps. C'est une trilogie en français avec 2 autres livres qui sont pas encore sortis en anglais. Et en fait, ça parle un petit peu, ça reprend les bases des légendes arthuriennes. Donc avec le héros qui est une sorte de prince un peu perdu et qui vient essayer de résoudre les différents problèmes entre 2 mondes très différents. Un monde un petit peu humain et un monde un peu magique. Lui, il a un pied dans les 2 mondes et il va essayer de concilier tout ça sans qu'il y ait trop de morts.
Quelle est la place des femmes dans ce type d'histoire? As-tu vu une évolution depuis ces dernières années justement sur le rôle des femmes qu'elles pouvaient avoir dans ce type d'histoire?
La place des femmes dans ce type d'histoire. Je pense que ça va être essentiellement 2 catégories. Soit les princesses qu'on vient sauver, soit des femmes un petit peu plus au caractère trempé, souvent orphelines, et puis qui en fait ont des dons assez exceptionnels et qui finissent par être l'héroïne de l'histoire. Après, est-ce que j'ai vu une évolution? Pas forcément. Surtout étant donné du fait que je lis pas forcément que des bouquins récents. J'ai tendance à lire un peu de tout, donc pas que ce qui vient de sortir. Donc je pourrais pas dire s'il y a eu une évolution ou pas, parce que dans l'ordre où je les lis, ça se trouve je vais lire des bouquins d'il y a 3 semaines, et ensuite je vais lire des bouquins d'il y a 20 ans, et ensuite des bouquins d'il y a 10 ans. Donc je pourrais pas te dire s'il y a vraiment une évolution ou pas. Vu que je regarde pas nécessairement quand est-ce qu'ils ont été
Écrit,
écrits.
je vois. On va ensuite enchaîner par un petit jeu qui est le tu préfères. Donc je vais te donner 2 situations et tu vas me dire ce que tu préfères. Tu préfères chevaucher un dragon ou manier une épée magique qui répond à ta voix?
Ah, chevaucher un dragon, c'est plus stylé quand même.
Ok. Tu préfères devenir un souverain d'un royaume en ruine ou être le héros d'une prophétie tragique?
Très bonne question. L'un peut être l'autre. Ça peut être un roi d'un royaume en ruine et le héros d'une profession tragique.
Non, mais là, faut que tu choisisses, hein. Tu vas pas commencer comme ça.
Eh bien, dans ce cas-là, plus de chances de s'en sortir en étant le héros d'une prophétie tragique.
Tu préfères avoir le don de lire l'avenir, mais être incapable de changer le destin, ou n'avoir aucun pouvoir, mais toujours agir au bon moment?
Bah, agir au bon moment, parce que tu vois, avoir le don de lire l'avenir, c'est bien, mais si tu peux rien y faire,
Tu subis l'histoire, quoi.
du coup, ça sert à rien d'être prévenu à l'avance, t'as plus de surprise en plus.
Ouais.
Pas amusant.
Tu connais limite ta mort.
Ah, bah, si tu vas jusque-là, oui. Puis c'est déprimant, si tu connais ta mort et qu'en plus tu peux rien y faire,
Ouais.
ouais, ça doit être déprimant comme
Ouais,
pouvoir.
autant
D'accord,
agir au bon
intéressant.
moment. Tu préfères combattre une armée d'ombre dans une bataille épique ou infiltrer un culte maléfique en solo?
Une bataille contre. Ouais, une bataille épique, je pense.
Ouais, je pense que tu choisirais ça.
Je serais pas assez patient pour infiltrer un culte.
Tu préfères vivre dans une forteresse perchée dans les nuages ou dans une cité cachée au cœur d'une forêt enchantée?
Ah, ça fait très princesse, ça, comme question.
Tu trouves?
Ouais. Mais je dirais dans. Ouais, dans la forêt. Dans la forêt, je pense.
Tu préfères avoir un mentor magicien ultra puissant mais insupportable ou devoir apprendre la magie seule avec de vieux parchemins illisibles?
Apprendre seul, je pense. Après, on fait toujours des rencontres hein, dans la vie, mais apprendre seul.
Tu préfères affronter un dragon cracheur de feu ou une horde de morts vivants silencieux?
Ah, bon, un dragon. Parce que comme ça, si je meurs, je meurs vite. Je crame vite fait, et puis hop, c'est fini. Alors que les morts vivants, bah, tu peux essayer de courir, de t'échapper, tu vas au soleil et tout ça.
Et t'es le héros de l'histoire, t'es pas censé mourir. Hein.
Ouais, mais dragon, c'est plus stylé parce que si tu le bats, ça se trouve, après, hop, ça devient ta monture. Les morts vivants, c'est moins stylé en tant que monture.
Eragon is back.
Et voilà, exactement.
Tu préfères devoir te faire passer pour un roi pendant un mois ou pour un esclave dans une ville ennemie pendant une semaine?
Bah pour un roi, bien sûr. T'imagines tous les banquets qu'ils font et tout? Trop bien.
Pense qu'à la nourriture. Tu préfères traverser des montagnes hantées ou naviguer sur un océan peuplé de monstres marins?
Moi, je préfère la terre, donc les montagnes hantées.
Tu préfères avoir un compagnon animal légendaire, griffon, licorne, loup géant, ou un compagnon humain juré à ta cause pour la vie?
Ça dépend. Parce que si ton compagnon humain, tu vois, c'est un bon pote, etc., ça va être très drôle. Si c'est quelqu'un de chiant, ben, je préfère un animal légendaire. Et je pense qu'un griffon, c'est pas mal, ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, t'aurais des conversations très profondes avec un griffon.
Ben, ça se trouve, il parle le langage humain ou en télépathie, tu vois. On est en fantasy, on s'interdit rien. Ou alors j'apprends le langage des bêtes, tu sais pas.
Tu préfères sauver le monde au prix de ta vie ou laisser le monde sombrer pour sauver ce que tu aimes?
C'est une fausse bonne question. Parce que si je laisse le monde sombrer, comment je sauve ceux que j'aime? Et oui, toute la question est là, donc il faut quand même sauver le monde, c'est mieux. C'est comme ça que tu sauves ceux que t'aimes.
Donc tu me sauves?
Avec le monde.
Tu peux juste te sauver moi?
Bah non, parce que si je te sauve toi et que le monde y crame, bah, y a plus de monde après.
Effectivement. On repart sur quelques questions. Pourquoi les figures du héros, du mentor et du traître reviennent-elles si souvent en fantasy épique? Est-ce une force ou une faiblesse du genre, selon toi?
Je pense que c'est les deux. C'est une force parce que ça permet de reconnaître un récit, ça te donne une trame assez claire. Il faut essayer, bien sûr, de broder avec quelques petits plot twists, etc., des petits trucs intéressants. Mais ça peut être une faiblesse quand, justement, c'est mal écrit et que tu arrives bah, tout de suite à deviner la fin. Et bah, quand ça t'arrive, la fin du livre peut être très longue.
Il y a beaucoup de plot twists en fantasy épique?
Il y a beaucoup de moments de révélation. Ça, je trouve ça hyper intéressant.
Ah oui, tu les devines toujours.
Non, c'est pas une question de les deviner, mais c'est vraiment le passage, tu vois, un grand moment de révélation, quoi. C'est bien ça.
Est-ce que t'arrives à les anticiper, les deviner, ou pas du tout?
Bah, en général, c'est des moments de révélation que t'attends parce que toi, tu sais que le personnage, je sais pas, il est super fort, etc. Mais ses ennemis ou ceux qui l'aiment pas, ils le savent pas encore. Et c'est au moment où il le découvre que là, tu vois, c'est le moment de révélation et que...
Oui, donc tu vois juste les autres qui sont complètement choqués, ébahis...
Ouais, voilà, c'est ça.
Je vois. Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans la fantasy épique? C'est l'évasion, l'inspiration ou la cartésie?
Je pense que ce serait plutôt l'évasion. C'est de pouvoir s'échapper grâce au livre, de pouvoir imaginer plein de trucs, de pouvoir s'imaginer être ailleurs, tu vois.
Ouais, je vois. Et selon toi, faut-il être patient pour aimer la fantasy épique, où il existe également des récits courts mais puissants?
J'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut être patient, parce que c'est souvent des sagas de plusieurs livres, hein, de la trilogie jusqu'à des sagas qui créent tout un univers complet avec plusieurs dizaines de livres. Mais après, c'est une patience, mais en même temps, ça se dévore tout seul. Les livres, donc c'est pas vraiment de la patience, tu mets du temps à lire parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas de la patience comme quand t'attends dans une queue, quoi, c'est...
Oui, je vois, mais bon, quand même, 12 tomes des fois, hein.
Oh, même plus que ça, hein. 12 tomes, et puis ensuite il y a la suite avec 6 tomes de plus, et puis il y a plein de tomes tout autour dans le même univers, sur des périodes différentes, donc oui, ça peut aller très loin.
Je pense que c'est le moment que tu nous parles de ta fantaisie épique préférée.
Ma fantaisie épique préférée?
Ouais.
Je pense que c'est l'univers autour de l'Assassin Royal, de Robin Hobb. Donc, il y a 12 ou 13 livres, il y a une suite de 6 livres, et ensuite, doit y avoir plein de séries de 3-4 livres dans l'univers même, sur des personnages annexes, sur des périodes antérieures. Vraiment un univers très bien écrit, très bien développé.
Et ça raconte un peu quoi comme histoire?
Mais du coup, de base, l'Assassin Royal, ça reste quelque chose, on va dire, au départ d'assez classique. Hein. Tu sais, le bâtard d'un fils d'un prince qui a des pouvoirs grâce à sa mère, etc. Et puis qui est accueilli dans la maison du prince, mais qui est quand même traité comme un bâtard. Et puis qui va évoluer comme ça, à travers différentes intrigues de la cour, jusqu'à même devenir... sans... Oui, non, on va pas spoiler quand même, mais...
Non, on spoil pas ici.
On spoil pas, donc non, très intéressant.
On va enchaîner avec un autre petit jeu, c'est genre tu vas devoir essayer d'estimer mon espérance de vie dans des livres de fantasy épique. Donc je vais te donner des noms de livres et tu vas dire mon espérance de vie, genre 0, mort immédiate, et 10, je d'être ça. Alors faut savoir que moi dans ma tête, je pense toujours d'être ça quoi qu'il arrive. Donc si tu mets 0 partout, je vais très très mal le prendre, ok?
Ouais.
Dans l'Assassin Royal de Robin Hobb.
Attends, je rate ta tête. Ouais. Ouais, allez, on va dire 5.
Ok. Ok, en gros, je meurs au niveau du cinquième tome, quoi.
Peut-être pas le cinquième, mais ouais, c'est vrai que compliqué de se faire une place. Non, ouais, 5, c'est bien.
D'accord. La Voix des Ombres de Brent Weeks.
Là, tu pourrais avoir un peu plus de chance.
De chance?
Non, mais tu pourrais t'en sortir un peu mieux, je pense, parce que tu peux ressembler un peu à héros avec beaucoup de caractère, etc. Donc, je pense un 8 ou 9. Tu pourrais t'en sortir à la place du héros, tu vois.
Ah ouais, on est près de 10. Oula, je me sens flattée, là. Les Annales de la Compagnie Noire, Glenn Cook.
Ah ouais, un ou deux, là.
Ah ouais?
Ouais, c'est une compagnie de mercenaires avec beaucoup d'hommes, essentiellement. Mmh. Ouais. Un milieu peut-être un peu très macho, très...
Je peux me déguiser en homme.
Ouais, mais pas sûr que ça fonctionne très longtemps.
D'accord.
C'est vraiment la guerre, les mercenaires, quoi, les camps et tout, c'est...
Ok. Deux. Mmh. Ok, ouais. J'entends. Ouais. La trilogie du magicien noir de Trudy Canavan.
Oui, je pense qu'à... À 7-8, tout dépend de tes... Puisque là, c'est pas fixé sur le genre. Donc, tout dépend de tes compétences, donc pas de problème pour s'en sortir.
Ah ouais? Tu penses que j'ai de bonnes compétences?
Non, mais après, c'est de la magie, donc je sais pas s'il y a des bonnes compétences en magie.
Ah.
Mais il y a un peu de négociation, donc t'es pas trop mal là-dedans.
Oh, c'est gentil, ça.
Donc, non, tu pourrais t'en sortir.
Ok. Non, en vrai, ça va. Je trouve que t'es gentil avec moi, ou sinon tu crois très très fort en moi. En tout cas, les deux me vont. On finit toujours le podcast Chill Talking and Reading par la question que tu as pour moi et le livre que tu aimerais absolument que je lise. Alors, faut savoir que Mathurin m'a déjà donné un livre qu'il voulait absolument que je lise et j'ai lu les 60 premières pages et je l'ai jamais fini parce que je trouvais qu'il était beaucoup trop jeune pour moi. Mais bon, aujourd'hui, c'est le moment pour que je te redonne ta chance. Donc,
c'est
dis-moi.
Normal qu'il était trop jeune. Je te l'ai donné. T'as mis 4 ans avant de commencer à le lire. C'est long, 4 ans, à cet âge-là.
Excuse-moi, tu m'as donné le héros, il a 16 ans et il découvre la vie.
Oui, mais je te l'ai donné, t'avais 18 ans. C'était très bien.
Non, tu me l'as donné, j'avais 21 ans.
Non.
21 ans.
Non. Enfin bon, c'est pas le sujet.
Allez.
Donc, la question, c'est est-ce que toi, t'as un scénario préféré dans l'Heroic Fantasy? Qu'est-ce que t'aimes bien comment tu veux que ça se passe?
Je pense que je m'inspirais de ma vie personnelle et du coup je partirais sur un fils de bâtard qui découvre qui a des pouvoirs et que du coup il est amené à sauver le monde et à prendre sa véritable place. Ouais. Je pense que je partirais sur ce type-là de scénario.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, j'aime bien être l'outsider qui relève l'ensemble de ses compétences.
Ah, ça arrive très souvent en fantasy, ça.
Ouais.
Ouais, c'est le scénario classique, en fait.
T'es en train de dire que je suis pas originale?
Bah que t'as choisi un scénario classique.
Ok, mais un scénario qui marche.
Scénario qui vend bien.
Ok, et du coup, le livre que t'as pour moi?
Mais l'Assassin Royal, il faut que tu lises.
Ah ouais?
Ouais.
Je suis pas prête pour tous ces tomes-là, les tomes, les 6 tomes annexes,
Il faut
les
prendre le
trois,
temps.
quatre en fonction des personnages. Oh là là. Il y a pas une petite trilogie?
Non.
Allez.
Tu peux le dire, tu peux lire La Guilde des Ombres.
La Guilde des Ombres.
Il y en a
Ok.
six.
J'ai dit trilogie,
Puis c'est
pas
des gros
six.
bouquins en plus.
Ah ouais.
Donc c'est autant que les 12 de l'Assassin Royal.
Oh là là, mais tu te rends compte, je demande à chaque personne qui vient sur ce podcast de me faire une recommandation. Donc au global, il va y avoir 12 épisodes. Donc si toi, tu commences déjà à me donner 6 livres, je vais jamais m'en sortir.
Chacun ses problèmes.
J'entends. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre littéraire vous a beaucoup plu, ou si c'est un genre que vous connaissez pas, ça vous a donné envie de le découvrir, parce que là, on n'est pas juste sur de la fantaisie, on est vraiment sur un genre un peu plus hippique, et j'espère vraiment que, en tout cas, toutes les recommandations qu'on vous a données, ça vous a donné envie de le lire. Si vous êtes dans la même galère que moi, on est parti pour lire 6 tomes. En tout cas, un immense merci à Mathurin de m'avoir accompagné sur cet épisode et vraiment de nous avoir fait découvrir sa passion pour ce genre parce que je vous garantis, c'est vraiment tout ce qu'il lit. Il m'en parle du matin, midi, soir et limite, il passe ses journées à lire ça. Donc vraiment, un immense merci à toi, mon cœur. Du coup, malheureusement, c'est déjà la fin de Chill Talking and Reading et on se retrouve très très bientôt avec de nouveaux invités, de nouvelles recommandations et des nouveaux genres littéraires. Et surtout, n'oubliez pas de lire.